Stabilité.
Géopolitique, Hassan Diop.
RFI, la suite de Géopolitique, avec toujours nos trois invités au téléphone. Dorothée Schmidt, chercheuse à l'IFRI et spécialiste de la Turquie, en ligne d'Istanbul. Samim Akgunul, politologue et chercheur à l'Université de Strasbourg. Et puis avec moi, ici en studio, Marc Semo, chef du service étranger à Libération et spécialiste également, bien sûr, de la Turquie. Un débat consacré à cette première élection présidentielle au suffrage universel direct en Turquie. Le premier tour de scrutin, ce dimanche 10 août. Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre et chef de l'AKP, sera face à Ekmeleddin Eşnoğlu, le candidat des Kémalistes du CHP et des Très Nationalistes du MHP, et à Selahattin Demirtas du HDP, le jeune candidat de la gauche, celui qui adopte, semble-t-il, le ton le plus moderne dans cette campagne électorale. Dans cette deuxième partie de Géopolitique, on va aborder les enjeux institutionnels à l'issue de cette présidentielle. D'abord, Marc Semo, un rappel du processus qui a conduit Erdogan à instituer ce nouveau mode d'élection du président qui deviendra pleinement le chef de l'exécutif. Donc, processus engagé qui a connu un tournant avec le référendum de septembre 2010,
voilà,
référendum constitutionnel.
Bon, c'était à une époque de bras de fer sur qui devait devenir le chef de l'État. Le chef de l'État en Turquie ayant des pouvoirs extrêmement limités. Donc, à l'époque, on avait, dans ce bras de fer, avait été fait un référendum pour donc cette élection suffrage universel du chef de l'État, qui n'avait passionné personne. Alors qu'il était évident que ça enclenchait un processus. Il était évident que Erdogan serait intéressé par la chose, et il était en même temps évident que si on élit un président au suffrage universel, il ne peut pas garder les actuelles prérogatives très limitées. Donc on va être là pendant un an ou deux dans une situation très bâtarde, puisque Erdogan donc va gagner. Erdogan a déjà dit que vu son tempérament, son caractère, sa vision politique, il va pas être un président inactif. Donc on va être là dans une phase où on va être sans arrêt à la limite, voire violant le cadre de la constitution en vigueur, qui est le 82, qui est la constitution héritée du régime militaire par ailleurs. Mais ensuite, le but d'Erdogan est réellement d'avoir en main, comme il les a déjà, tous les pouvoirs. Et on peut dire de ce point de vue-là qu'il y a une espèce, mais ça va au-delà même de la question institutionnelle, de moyenne orientalisation de la Turquie. Et on le voit donc justement avec ce culte de l'homme fort qui s'installe au pouvoir, qui se sent investi d'une mission. En plus, il ne s'en cache pas. Sa mission, lui, se voit comme le nouveau sultan, et sa mission, c'est redonner à l'islam toute sa place en Turquie, donc remettre la Turquie dans le sillon de son histoire religieuse. Hein, c'était quand même le pays qui, pendant des années aussi, le sultan était aussi le calife. Mmh. Et en même temps, redonner à cette Turquie qui est l'héritière de l'Empire ottoman toute sa place dans le monde. Ça, c'est au niveau politique. Au niveau personnel, la moyenne orientalisation, on voit qu'une dynastie s'installe d'une certaine façon. Son fils Bilal fait du business, il a été éclaboussé
dans
des affaires de corruption, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les Turcs, d'une certaine façon, n'ont pas sanctionné Erdogan et l'AKP pour ça. C'est-à-dire comme si cette idée faisait son chemin. Ce qu'on voit dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, on le voyait dans l'Égypte de Moubarak, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une famille au pouvoir et que si cette famille se sert dans la caisse, finalement, c'est dans l'ordre des choses. Et cela, alors que la Turquie a ouvert, disons, depuis 2005, négociations avec l'Europe, que la Turquie allait jusqu'ici vers l'Europe, est pour le moins préoccupant, d'autant que l'Europe a été la grande absente de la campagne d'Erdogan.
Voilà,
C'est devenu un objectif secondaire.
Nous allons en parler justement de l'aspect de la politique étrangère, mais avant cela, cette architecture du pouvoir en Turquie va se rapprocher tout de même, Dorothée Schmidt, de la France, c'est-à-dire le président, le chef de l'État va avoir les pleins pouvoirs, c'est la fameuse constitution de 58. Alors, est-ce qu'il faut craindre un pouvoir justement hors de contrôle? Un pouvoir où le chef de l'État, justement, va se moyen-orientaliser, comme le dit Marc Semo.
Alors bon, je trouve que Marc va un petit peu loin dans le syndrome orientaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'au Moyen-Orient qu'on a des hommes forts. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que l'homme fort est en train d'émerger comme le système de gouvernement le plus populaire dans un monde troublé. Je pense qu'il est important de rappeler que tous les scandales de corruption, en général, commencent à avoir des effets politiques quand on est dans des situations économiques difficiles. C'est-à-dire que finalement, si Erdogan avait dû faire face à une baisse notable de la croissance, il est possible qu'à ce moment-là, Les scandales de corruption de décembre dernier ont eu un effet sur les élections locales, d'abord de mars dernier, et qu'aujourd'hui, ça érode un petit peu sa popularité. Pour le moment, ce qui est très fascinant quand on observe...
Mais ça ne le rend pas plus vertueux, ça n'empêche...
Non, absolument. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de gouvernements vertueux en réalité, et que ces maux, ces drames, ces vices de la démocratie turque sont des vices de la démocratie qu'on voit ailleurs. Moi, je pense qu'il est plus important de revenir sur cette question des barrières à l'entrée sur le marché politique dont on parlait au départ. C'est-à-dire que finalement, en Turquie, on a à la fois énormément de partis, et puis on en a très peu qui participent réellement à la vie politique, puisqu'on a ce fameux taux de 10% qui représente une énorme barrière à l'entrée au Parlement. Et la crainte, c'est qu'effectivement, une fois que le leader est au pouvoir, eh bien, il se débarrasse de tous les opposants ou qu'il les fasse taire. Mais on est dans une grande ambiguïté avec Erdogan, puisque malgré tout, c'est un leader qui est aussi adulé par beaucoup de monde. Il est détesté par un certain nombre de Turcs qui sont quand même beaucoup moins nombreux. Et puis qu'au milieu, il y a tous ceux qui sont quand même prêts à voter pour lui, alors qu'ils pourraient voter pour les autres. Personne ne les oblige à voter pour Erdogan, concrètement, là, maintenant.
Voilà, Samim Agonul, la tentation donc de l'homme fort du chef d'État avec les pleins pouvoirs et puis au fond contre lequel aucune sphère institutionnelle ne pourra rien, donc pas de contre-pouvoir finalement petit à petit.
Oui, mais de l'autre côté, il est difficile de comparer le système qui va avoir lieu après l'élection d'Erdogan s'il est élu avec le système français, dans la mesure où il y a quand même en France un contre-pouvoir installé, il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Cour de compte qui rend public ses rapports, il y a les tribunaux, etc. Dans le système à la Turca, si Erdogan est élu, il n'y aura plus aucun contre-pouvoir. Il n'y a déjà plus, puisqu'il l'a complètement écarté, plus aucun contre-pouvoir. Il faut quand même dire que, certes, l'exécutif appartient jusqu'à aujourd'hui, selon la constitution de Turquie, au Premier ministre, mais il est faux de dire que le président n'a qu'un rôle symbolique. Comme Marc l'a précisé, il s'agit d'une présidence héritée de la junte militaire des années 1980, et le président n'avait pas de responsabilité, mais avait un pouvoir, a un pouvoir. Le pouvoir de nommer des hauts fonctionnaires, le pouvoir de nommer des présidents des universités selon sa volonté. Il y a des élections dans les universités, mais c'est finalement le président qui les nomme, et puis souvent, très très souvent, il nomme ceux qui ont obtenu le moins de voix. Donc c'est un pouvoir déjà très très important. Et déjà avec cette constitution, même s'il n'y a pas de changement de constitution, la constitution prévoit au président, quand il le juge nécessaire, de réunir le Conseil des ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Erdogan va être élu président de la République, il va être certes président de la République symbolique, représentatif, etc., mais il va être un Premier ministre aussi. Nous avons déjà vécu ceci en Turquie, avec la présidence de Turgut Özal, dans les années 1990, ce Premier ministre aussi populaire, etc., et quand il est monté à Çankaya, donc l'Élysée turc, il a nommé un premier ministre de marionnettes, et il a continué à gérer les affaires et à gérer l'exécutif. Donc ça va être exactement le cas. Maintenant, on ne sait pas si cet État de facto va être transformé de jure à un régime présidentiel ou semi-présidentiel avec un changement constitutionnel. Ça n'est pas simple dans la mesure où, avec Erdogan en tant que président, on ne sait pas si aux élections législatives, AKP aura la majorité de 2/3 nécessaire pour changer tout seul la constitution, sinon il y aura un nouveau référendum. Mais bon, on sait quand même que, encore une fois, il est très apte dans les campagnes électorales.
Vous partagez ce point de vue de Samim, selon lequel donc il y aura quasiment plus de contre-pouvoir face à Erdogan.
On est dans un cas, alors effectivement, Dorothée avait raison, c'est une chose qui monte, ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Il y a l'exemple de la Russie, de Poutine, la Chine, la Hongrie de Orban, et effectivement la Turquie semble de plus en plus aller vers ça. Moi je parlais de moyens d'orientalisation parce qu'il y a aussi ce facteur du religieux que Recep Tayyip Erdogan met toujours plus en avant, au point que même l'un de ses spots de campagne avec appel à la prière et tapis de prière, etc., a été interdit par le Haut Conseil électoral, ce qui est quand même, pour qu'ils interdisent un spot d'Erdogan,
il
a poussé le bouchon assez loin. Voilà. Et Erdogan ne s'en cache pas. Son modèle, plus encore peut-être que le modèle français, est celui d'une république présidentielle américaine. Ce qui en soi, les États-Unis sont une démocratie. Le problème, c'est qu'il y a un check and balance. Aujourd'hui, en Turquie, on ne voit pas quelle institution pourrait être un contre-pouvoir. L'AKP, désormais, contrôle tout. Voilà. Tous les leviers du pouvoir sont entre les mains du parti au pouvoir.
Au pouvoir. Voilà, RFI, la suite de Géopolitique. Donc, sur cette première élection présidentielle au suffrage universel en Turquie, un tour de table à présent sur la politique étrangère durant cette campagne. Dorothée Schmidt, une campagne qui a coïncidé avec l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, une actualité tragique dont Erdogan a fait en quelque sorte son miel et en des termes parfois excessivement vifs contre Israël durant ces super meetings, Dorothée Schmidt.
Oui, alors c'est vrai que le sort des Palestiniens est devenu un thème de campagne classique maintenant pour Erdogan. Il a la chance d'avoir très fréquemment des opérations israéliennes pendant des campagnes électorales en Turquie, mais c'est la première fois qu'on avait ça pendant une campagne présidentielle, puisque c'est la première élection au suffrage universel direct. Et là, il s'est lâché, on peut le dire, en expliquant que les Israéliens se comportaient pire que Hitler. Mais ça, c'est une espèce de diversion. Alors, c'est à la fois très inquiétant de voir que ça fonctionne en Turquie assez bien sur l'électorat, que c'est une diversion qui fonctionne. Mais il faut quand même noter que tous les candidats étaient opposé à l'opération israélienne à Gaza. Donc il y a quand même un consensus général en Turquie sur l'idée que Israël est allé trop loin. Alors ensuite, on n'est pas obligé de verser dans un antisémitisme caricatural et grossier. Mais sur la politique étrangère, moi je trouve qu'il y a une chose qui est très intéressante, que il y a quand même quelques impairs de politique étrangère, quelques ratés très énormes qui n'ont pas eu d'impact sur la campagne, alors notamment ce qui est en train de se passer en Irak aujourd'hui, et il faut revenir peut-être un petit peu sur la prise d'otage de tout le consulat turc à Moscou le 11 juin dernier.
Près de 60 personnes, je crois, oui.
Il y a une ironie quand même extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui l'État islamique a installé son QG dans les bâtiments du consulat de Turquie. Donc là, on est quand même dans un raté monumental qui est couvert, entre guillemets, par le gouvernement. Il fait passer une loi pour interdire aux médias de parler de la question. Eh bien, on est donc sur une campagne électorale où finalement, là, on se rapproche assez des démocraties occidentales. La politique étrangère peut jouer un rôle, mais elle joue un rôle instrumental. Et finalement, elle ne va pas faire la différence sur le fond et sur les vraies questions.
Voilà. Samim Agonoul, est-ce que tout de même, aujourd'hui, Erdogan ne paraît pas isolé, un peu comme Vladimir Poutine, auquel on le compare souvent, je dirais, au niveau du leadership et de la popularité à l'intérieur du pays. Mais est-ce que, quelque part, il ne s'isole pas? Bon, coup de gueule constant contre Israël, rupture, bien sûr, avec Bachar depuis cette effroyable guerre en Syrie. Et puis, évidemment, avec l'Égypte, rien ne va depuis que les frères musulmans ont été évincés du pouvoir. Bref, avec qui il peut compter aujourd'hui dans la sous-région?
Pas avec grand monde. C'est vrai que de rester parler de ce raté avec la Syrie. Écoutez, depuis 5 ans, c'est une succession de ratés dans la politique étrangère. Je ne parle même pas des négociations avec l'Union européenne. Concentrons-nous au niveau régional. Il y a eu cette idée de zéro problème avec les voisins, qui est une très bonne idée, évidemment, qui est un vœu pieux, mais regardons un par un, avec la Syrie, Erdogan a noué des relations très 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 proches avec Bachar el-Assad, avec la suppression des visas, visites familiales entre les deux, et ensuite a tourné le dos à la famille de Bachar el-Assad 180 degrés, pour soutenir l'opposition, pour envoyer des armes, pour envoyer de l'argent, et aujourd'hui c'est une catastrophe. La Syrie est peu à 100 et les frontières de la Turquie sont menacées également. En Irak, il y a eu une opposition viscérale contre l'autonomisation du nord d'Irak en tant que Kurdistan. Aujourd'hui, peut-être c'est le seul allié de la Turquie dans la région. Aujourd'hui même, les islamistes qui menacent la stabilité d'Irak, il n'y en a pas de stabilité d'Irak, sont combattus par des peshmerga kurdes et qui, de facto, sont en train de défendre la frontière turco-irakienne. Donc c'est un raté extraordinaire. Le rapprochement avec l'Iran, le Brésil et la Turquie ont proposé à l'Iran une sorte de modus vivendi pour le pétrole, pour le nucléaire, pour l'énergie et puis pour son argent. Ça a été empêché par les États-Unis.
Les États-Unis.
Au fond de ces affaires de corruption, il y a le blanchiment de l'or iranien à travers un homme d'affaires douteux qui vit aujourd'hui en Turquie, qui distribue des pots de vin.
Erdogan, donc sur le plan de sa politique étrangère est désastreuse à vous entendre, Marc Semo.
Tout ça est vrai. Mais en même temps, c'est plus compliqué. Parce que, à sa décharge, hein, la politique du zéro problème avec les voisins marche quand les voisins n'ont pas de problème. À partir du moment où commence la guerre civile en Syrie, la Turquie pouvait ni continuer à soutenir le régime de Bachar, quand même régime de bourreau, massacrant son propre peuple, etc., et ni rester totalement à ne rien faire. Ensuite, il y a un autre facteur qui est en train de changer. C'est la question kurde. Et notamment, Samine en parlait tout à l'heure, par rapport au Kurdistan d'Irak. Aujourd'hui, Erdogan a compris que la question kurde est devenue centrale, à la fois en interne, que c'est le nœud, donc il faut qu'il trouve une solution avec les Kurdes de Turquie, 15% de la population, c'est quand même la guérilla, la sale guerre a fait, alors même si maintenant les armes se sont tues, quand même quelques 40 000 morts depuis 84, et surtout au niveau régional, parce qu'aujourd'hui, c'est une zone de protection pour la Turquie, c'est un poumon économique, c'est aussi potentiellement du pétrole qui arrive, au fur et à mesure que l'Irak du Nord se détache de l'Irak. Et c'est un effet induit de l'État islamique qui a coupé territorialement. Il n'y a plus de continuité territoriale terrestre entre le nord de l'Irak et Bagdad. Donc, de fait, le Kurdistan d'Irak est adossé à la Turquie, devient de plus en plus dépendant de la Turquie. C'est son ouverture vers le monde. Et Erdogan a compris que la question kurde est fondamentale comme relais de puissance pour la Turquie. Et c'est plus ou moins aujourd'hui une des cartes qu'il est en train de jouer. Et si ça marche, alors c'est très compliqué, c'est quelque chose qui peut changer la donne, y compris en donnant à la Turquie ce qui lui a aussi beaucoup manqué pour sa politique étrangère, c'est-à-dire des ressources énergétiques. Pour le moment, elle dépend à 80% du gaz russe et iranien qui ne sont pas vraiment ses alliés et qui limitent aussi sa marge de manœuvre.
Oui, voilà. Dorothée Schmidt, vous avez évoqué tout à l'heure brièvement et je vous avais coupé l'Europe, hein, c'est Erdogan, hein, qui avait ouvert cette marche de la Turquie vers l'Union européenne, marche qui marque le pas, c'est pour le moins, et Ankara, effectivement, est encore très très loin de Bruxelles, et est-ce que à la faveur de cette élection, il risque pas davantage de s'en éloigner, au fond ?
Alors, évidemment, sur la relation avec l'UE, il y a d'abord un problème de fond qui est l'état de l'Union européenne elle-même. De toute façon, Jean-Claude Juncker a clairement déclaré que
pas
sous son mandat, il n'y aurait pas de nouvelle adhésion. Et ensuite, quand il a parlé des pays candidats, il a dit qu'il fallait quand même, à terme, s'ouvrir aux États des Balkans, mais il n'a pas du tout évoqué la Turquie. Et on voit très bien que depuis la crise de la grande contestation de Gezi l'année dernière, l'image de la Turquie a beaucoup souffert auprès des Européens. Et on a vu notamment les Allemands prendre le relais des Français sur la question de l'opposition à l'adhésion de la Turquie, finalement, en disant qu'aujourd'hui, on a un problème de valeur politique. Il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est de voir que récemment, lors des auditions au Sénat, du prochain ambassadeur américain à Ankara, la question a été posée très clairement par John McCain sur l'autoritarisme, le virage autoritaire de la Turquie. Il a dit effectivement, il y a un problème, la Turquie devient de moins en moins démocratique. Donc la Turquie a aussi un souci avec les États-Unis. Et en même temps, c'est un acteur qui est absolument indispensable du point de vue stratégique dans la région, même si je suis pas sûre qu'elle se débrouille aussi bien que Mark l'espère, même si elle arrive à s'entendre avec les Kurdes qui eux-mêmes ne s'entendent pas entre eux.
Voilà. Alors, un dernier mot sur le vote des étrangers. Pour la première fois, hein, Sami Maglougoul, les Turcs de l'étranger peuvent voter. Alors, par exemple, la majorité de ces Turcs à l'étranger vivent en Allemagne. Et on dit que là aussi, c'est plutôt Erdogan qui part favori. D'ailleurs, je crois qu'il est allé faire campagne.
Ils ont très peu voté. Ils ont très peu voté. 15% à peine.
15%, d'accord.
C'est même moins que 15% dans les 12%, je crois. C'est un échec dans le système. Alors, il y avait plusieurs problèmes techniques. Il y avait le système de rendez-vous pour aller voter et les gens n'ont pas pris rendez-vous parce que quand même, c'est contraire au principe d'un vote anonyme. Il y a également toujours aujourd'hui actuellement le problème du transfert de ces votes parce que les votes ne sont pas comptés là où les électeurs ont voté mais sont transférés à Ankara par avion et vont voter. Et donc, comme je le disais, d'une manière générale, il y a des suspicions des irrégularités dans les élections en Turquie même, donc il y a là aussi. Effectivement, l'électorat d'Erdogan est assez fort à l'étranger, notamment sur des questions musulmanes, hein, sur les questions de l'islam, mais Erdogan espérait obtenir des millions de voix à la fois en Allemagne et en France, à Lyon, il a fait un grand meeting d'ailleurs qui a eu un rétablissement en Turquie, mais bon, c'est une déception parce qu'il y a très peu de Turcs de l'étranger qui ont voté.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Dorothée Schmidt. Je signale votre dernier ouvrage en date, La Turquie au Moyen-Orient, en livre publié sous votre direction aux éditions du CNRS. Merci à vous, Samim Akgönül. Dernier ouvrage à citer, Religion des Turquies, Religion des Turcs, aux éditions L'Harmattan, ici en France. Merci vous, Marc Sémaux. On vous doit également un ouvrage sur la Turquie, la révolution du Bosphore, aux éditions du Cygne. David Bossian et Apolline Verlon-Raison ont réalisé cette édition de Géopolitique. L'info revient dans quelques secondes sur RFI.